Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline, à demain. Pour nous c'est parti, le 18-20 de France Inter est ouvert. Attention à la marche et bienvenue sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord le premier journal de la soirée sur France Inter, présenté par Thomas Cluzel. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Fabienne.
L'essentiel de ce mardi 19 mai commence avec McDonald's accusé de tolérer un harcèlement sexuel systématique dans ses restaurants.
Oui, commentaires vulgaires, attouchements, agressions. Hier, une coalition internationale de syndicats a saisi l'OCDE. À peine annoncé, aussitôt critiqué parce qu'il brise un tabou en matière de solidarité financière, le plan de mutualisation des dettes européennes concocté par Angela Merkel et Emmanuel Macron suscite déjà une première levée de boucliers. Enfin, une cyberattaque géante. Les adresses électroniques de quelques 9 millions de clients de la compagnie low-cost EasyJet auraient été piratées.
À 18h15, un jour dans le monde, nous aussi, nous sommes en Europe ce soir et on regarde vers l'Allemagne qui a donc levé un tabou, celui d'une dette mutualisée afin d'aider les pays les plus touchés par le Covid-19. Après avoir été montré du doigt pour sa désorganisation et son manque de solidarité, est-ce que l'Europe s'est mise sur le bon chemin? L'histoire n'est pas finie. On en parle dans un instant et aussi bien sûr avec nos invités. 19h20, le téléphone sonne, commande par raviver la colère des blouses blanches. Emmanuel Macron a voulu désamorcer la crise, il a promis des investissements, des revalorisations de salaires, il a même eu une forme de mea culpa, pas de chiffres pour autant. À quoi voulez-vous qu'il ressemble l'hôpital d'après? 01 45 24 7000.
France Inter.
Et on commence donc avec McDonald's, la première saisine pour harcèlement sexuel généralisé dans une compagnie multinationale.
Oui, on savait déjà la plus grande chaîne de restauration rapide au monde, régulièrement visée quant à la qualité diététique de ses produits, ses pratiques environnementales ou bien encore son usage de l'optimisation fiscale. Alors voilà qu'hier, une coalition internationale de syndicats a saisi l'OCDE, estimant que la violence et le harcèlement basés sur le genre font partie de la culture de McDonald's, ou quand le mastodonte américain est accusé de tolérer un harcèlement sexuel systémique dans ses restaurants. En l'occurrence, les syndicats disent avoir rassemblé des témoignages avec des allégations allant de commentaires vulgaires aux agressions physiques, et ce à l'encontre de salariés partout à travers le monde, en Australie, au Brésil, au Chili, en Colombie, mais aussi aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France. Les précisions de Claire Chaudière.
Un schéma presque toujours identique de jeunes salariés précaires sous l'autorité d'un manager plus âgé et des faits récurrents, constate Linda Zarif, élue CGT chez McDonald's dans l'Hexagone, de la remarque sexiste quotidienne à l'agression sexuelle.
On profite aussi souvent de la promiscuité des locaux pour toucher certaines parties du corps qui n'ont pas à être touchées parce qu'il y a assez de place pour passer, mais bon, beaucoup d'affaires sont cachées. Pour la plupart du temps, c'est la victime qui se fait transférer.
Pas de judiciarisation à proprement parler de toutes ces affaires. C'est une médiation auprès d'un gouvernement qui est aujourd'hui envisagée, mais une médiation d'une ampleur inédite, explique Nicolas Allen du syndicat américain du commerce, un Américain francophone.
Il y a vraiment un problème à l'échelle mondiale avec cette entreprise sur le sujet des violences sexuelles au travail. Et pas quelques cas, mais beaucoup de cas. Et pour la plupart, ont été ignorés par la direction. Donc voilà, on estime qu'il y a un problème, quasiment un problème structurel, qu'il faut adresser à l'échelle internationale.
Premier dossier de harcèlement sexuel systématique, prochainement donc sur un bureau du gouvernement néerlandais où la multinationale a de nombreux intérêts, bureau en charge de statuer sur les infractions aux principes de l'OCDE. Réponse attendue sous 3 mois. Enjeu, la mise en place d'un plan de prévention et de sanction des harceleurs dans l'entreprise, mais aussi un mécanisme d'indemnisation des victimes.
Et j'ajoute que pour l'heure, l'entreprise affirme ne pas être responsable des conditions de travail des employés au prétexte que 90% de ses restaurants sont franchisés. Le second tour des élections municipales se tiendra-t-il fin juin? Nombre de maires poussent pour la tenue du scrutin, même si des voix discordantes se font entendre. Toujours est-il qu'afin d'éviter les critiques, le gouvernement entend lui s'appuyer sur l'avis du conseil scientifique. Or voilà que celui-ci, même s'il ne s'y oppose pas formellement, a émis ce matin de vives réserves, comme par exemple de procéder à une nouvelle évaluation des conditions sanitaires 15 jours avant la date retenue. En clair, les conclusions rendues par le panel d'experts sont extrêmement prudentes et laissent ainsi une large part de responsabilité à l'exécutif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Premier ministre consultera demain les responsables de toutes les formations et se réserve par ailleurs la possibilité de solliciter un débat et un vote au Parlement. Grenouillage, tribulation anecdotique, mais aussi contresens ou bien contretemps. Les efforts de la majorité pour minimiser la naissance d'un 9e groupe politique officialisé ce matin à l'Assemblée n'y changent rien, même si le parti présidentiel refuse d'y voir un cataclysme. Le symbole n'en reste pas moins fort. À 2 ans de la fin du quinquennat, 17 députés, pour la plupart marcheurs ou ex-marcheurs, ont fini par créer cette nouvelle entité baptisée Écologie, Démocratie, Solidarité, un groupe indépendant, comprenez, ni dans la majorité ni dans l'opposition. De quoi créer donc une certaine agitation. Tout d'abord parce que ces nouveaux frondeurs ont su faire fi des critiques et des pressions des légitimistes. Ensuite, parce que si le PS avait lui aussi en son temps connu le même sort que LREM, jamais les frondeurs de l'ère Hollande n'étaient allés jusqu'à faire sécession. Enfin, surtout, avec cette 9e entité, le groupe LREM perd de justesse la majorité absolue dans l'hémicycle, même si dans les faits, le parti présidentiel pourra encore s'appuyer sur les 46 Modem et la dizaine d'élus Agir.
On savait déjà combien la situation est aujourd'hui dramatique dans les EHPAD, ça va pas s'arranger.
Non, si les derniers chiffres de la pandémie de coronavirus en France confirment un reflux des hospitalisations comme des admissions en réanimation, en revanche, on observe aujourd'hui un net rebond du nombre de décès, principalement en EHPAD. Or, il faudra sans doute encore plusieurs mois avant que la situation ne se stabilise enfin dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. C'est ce qu'a tenu à préciser ce matin lors d'une conférence de presse le SINERPA, syndicat des EHPAD privés. Je vous propose d'écouter sa déléguée générale, Florence Arnaise-Maumé.
Le nombre de décès dans les EHPAD ne va pas baisser aussi vite que dans la population générale. Déjà parce que les organismes sont fatigués, parce que nous avons des organismes et des personnes âgées qui ont des comorbidités, ce qui n'est pas le cas dans la population générale, qui, une fois qu'elle est guérie, n'est pas entraînée vers une autre pathologie. 700 000 personnes hébergées, 14 000 décès aujourd'hui, c'est très exactement 2% de décès. Donc, c'est un phénomène dramatique et rare dans le champ des EHPAD, mais pour revenir à notre moyenne de décès mensuel qui est autour de 2 ou 3 décès par mois et par EHPAD, il va nous falloir plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Florence Arnaise-Maumé, déléguée générale du syndicat des EHPAD privés. Qu'il s'agisse de la fermeture des lieux de spectacle, de l'annulation des festivals, des tournées d'artistes ou bien encore de la suspension de toutes les actions menées dans le cadre des établissements scolaires, on le sait, les artistes et au-delà, tous les salariés du secteur culturel ne sont pas épargnés par les conséquences de la pandémie, d'où ce plan de soutien au secteur d'un montant de 15 millions d'euros adopté aujourd'hui par la mairie de Paris. Les premières réponses aux vœux d'études supérieures sont attendues ce soir sur la plateforme Parcoursup, laquelle aura continué à fonctionner malgré la fermeture des établissements, et ce, pour des élèves de terminale non seulement toujours privés de lycée, mais aussi possiblement d'aide à l'orientation. Depuis 1 heure, les lycéens peuvent donc se connecter sur la plateforme et voir si leurs premiers vœux ont été satisfaits.
Une audience très attendue maintenant à la Cour de cassation.
Oui, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire examinait ce matin la légalité de la très controversée prolongation automatique de la détention provisoire autorisée sous l'état d'urgence sanitaire sans audience ni débat. Tout est parti d'une ordonnance adoptée le 25 mars dernier dont l'interprétation a profondément divisé le monde judiciaire. Alors depuis, il se trouve que le gouvernement a rectifié le tir, sauf que 2 mois durant, eh bien, des dizaines et peut-être même des centaines de détenus ont vu leur incarcération prolongée de façon automatique sans passer devant un juge. Et c'est ainsi que 3 détenus ont donc décidé de se pourvoir en cassation. Ils estiment que leur détention est arbitraire et qu'ils devraient être remis en liberté. Compte rendu d'audience signé Corinne Audouin.
Tous les débats ont porté sur un article qui a été écrit trop vite dans la précipitation de l'état d'urgence sanitaire. L'article 16 de l'ordonnance du 25 mars qui autorisait la justice à prolonger les détentions provisoires. Le problème, c'est que tous les tribunaux ne l'ont pas interprété de la même manière, relève la rapporteure de la Cour de cassation. Une majorité de juridictions ont prolongé les détentions de manière automatique, sans audience ni débat, pour maître Patrice Spinozzi, l'avocat d'un des 3 détenus. C'est contraire au principe de notre droit.
Il est impossible qu'une prolongation de détention soit fondée uniquement sur une loi. Il faut qu'il y ait l'intervention du juge. C'est ce qui fonde l'indépendance même des juridictions en matière pénale. Le législateur a mal travaillé, le texte a été bricolé. Il faut espérer que la Cour de cassation ait le courage de rendre une décision forte et respectueuse des règles en matière de détention provisoire.
Faut-il annuler ces détentions et donc remettre en liberté liberté les détenus concernés. L'avocat général a estimé ce matin que certes, deux des décisions attaquées devraient être annulées, tout en considérant que le dispositif dans son ensemble n'était pas illégal, car dans le cas contraire, ce sont tous les détenus concernés qui devraient être immédiatement libérés.
Et je précise que la Cour de cassation rendra sa décision mardi prochain. Des violences ont à nouveau éclaté la nuit dernière à Argenteuil, dans le Val-d'Oise. Ces échauffourées opposant des habitants du quartier avec les forces de l'ordre ont commencé après la mort en moto le week-end dernier d'un jeune homme de 18 ans qui, après avoir croisé un véhicule banalisé de la brigade anticriminalité, a percuté un poteau électrique. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de cet accident. Emmanuel Macron et Angela Merkel l'ont bien compris, la résilience et la renaissance de l'Union européenne seront économiques ou ne seront pas. Hier, Paris et Berlin ont proposé la création d'un fonds de relance pour aider l'UE à surmonter la crise. 500 milliards d'euros au total. Alors faut-il y voir une lueur d'espoir au milieu de la tempête? C'est vrai que cette concession marque tout d'abord la fin de la léthargie du couple franco-allemand, mais aussi de certains tabous. En l'occurrence, ce plan repose sur un mécanisme inédit de mutualisation de la dette européenne. Et ce faisant, avec une Europe plus unifiée, ce plan peut également être perçu comme une relance au fond du projet européen. Sauf qu'en Allemagne, Angela Merkel n'aura pas attendu bien longtemps avant de devoir affronter les premières critiques, comme attendu dans un pays bercé au son des vertus de l'austérité budgétaire et qui a déjà dû faire son deuil de la règle de l'endettement zéro pour cause de pandémie. Ce plan de relance suscite des interrogations. De son côté, la chancellerie autrichienne a d'ores et déjà signifié que l'aide de l'UE aux États membres les plus touchés devait, selon elle, prendre la forme de prêts remboursables et non pas de subventions. Quant à la Commission européenne, elle a elle-même laissé entendre aujourd'hui qu'elle ne reprendrait pas telle quelle l'idée franco-allemande dans ses propres recommandations attendues la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, avec ce plan, Paris et Berlin ont donc pris clairement position sur l'alternative décisive à laquelle les débats européens se sont résumés ces dernières semaines. L'argent sera-t-il prêté ou donné? Et ce faisant, ils auront notamment pris de court les souverainistes, et notamment en France. Pourquoi? Parce que si un prêt soumis à des conditions peut être lu comme une atteinte à la souveraineté d'un pays, en revanche, un don peut être associé à une certaine conditionnalité sans remettre en cause la dignité et l'autonomie du bénéficiaire. Les précisions de Maxence Lambrecq.
Les souverainistes n'imaginaient jamais l'Allemagne capable d'un tel effort. Alors forcément, la riposte est au départ un peu simple.
C'est une opération de communication. Voilà. Alors ça fait bien, les gens se disent « Ah, l'Europe va faire quelque chose ».
Nicolas Dupont-Aignan est persuadé que ce dispositif ne verra jamais le jour, bloqué notamment par l'Autriche et les Pays-Bas, et que l'échelle n'est de toute façon pas la bonne.
La leçon de cette crise, c'est que plus c'est loin, moins ça marche. Donc il faut se rapprocher du terrain et pas s'en éloigner. Tout ça, c'est pour masquer la faillite de l'Union européenne. C'est opération survie, c'est le capitaine du Titanic qui vous invite à un nouveau voyage.
Le capitaine du Titanic, sous-entendu la présidente de la commission, va poser des conditions à ses dons. Et c'est ce qui inquiète le vice-président du RN, Jordan Bardella.
On a l'impression qu'on nous prête de l'argent pour nos beaux yeux. Non, on nous prête de l'argent en échange de transferts de pouvoir toujours plus importants vers la Commission européenne, vers des technocrates qui ne sont pas élus et qui ont organisé depuis maintenant plusieurs années l'affaiblissement de nos services de santé. La Commission européenne a demandé à 63 reprises aux États de baisser leurs dépenses de santé. L'Union européenne a été tellement déficiente que l'Italie a été obligée d'implorer la Chine de lui livrer des masques. Donc il faut aujourd'hui mettre en place une coopération entre États, mais surtout que chaque État conserve la main.
Garder la main sur la santé publique, refuser cet éventuel transfert de compétences. Aujourd'hui, chaque État membre a sa propre stratégie sanitaire.
La compagnie aérienne à bas coût britannique EasyJet a annoncé aujourd'hui avoir été la cible d'une cyberattaque très sophistiquée. Les pirates ont eu accès aux adresses électroniques et aux détails des voyages d'environ 9 millions de clients, ainsi qu'aux données de cartes bancaires de plus de 2000 passagers. Alors évidemment, cet incident tombe particulièrement mal pour la compagnie qui, comme l'ensemble du secteur aérien d'ailleurs, est aujourd'hui touchée de plein fouet par l'arrêt des vols en raison de la pandémie. Les explications de Laura Calmus.
C'est une attaque hautement sophistiquée, a annoncé la compagnie aérienne, et qui touche 9 millions de clients. Les adresses mail ainsi que le détail des déplacements des voyageurs ont été dérobés par des pirates informatiques. Parmi ces 9 millions de personnes, EasyJet a également informé que les hackers ont accédé aux données bancaires d'un peu plus de 2000 passagers. Dans un communiqué, la compagnie aérienne low cost a présenté ses excuses et s'est voulue rassurante, affirmant que pour le moment, il n'y avait aucune preuve que ces données aient été utilisées par les pirates. EasyJet est en contact avec l'Organisation britannique sur la cybersécurité pour connaître les détails de l'attaque et a promis d'informer la totalité des personnes visées afin de les conseiller sur les marches à suivre et minimiser les risques d'hameçonnage. Une turbulence de plus pour EasyJet qui a cloué au sol tous ses avions depuis fin mars à cause de la pandémie de coronavirus. Londres, Laura Calmus, France Inter.
Et j'ajoute que pour couronner le tout, cette cyberattaque intervient avant une assemblée générale des actionnaires vendredi prévue pour se prononcer sur l'éviction de l'équipe dirigeante de la compagnie.
Thomas Cluzel pour le journal. Merci beaucoup Thomas. À demain. Dans un instant, on parle d'Europe. Nous aussi, on parle d'Allemagne. On parle de ce tabou de la dette qui est fini. Une vraie révolution pour Angela Merkel. Mais est-ce que l'Europe a retrouvé son élan solidaire ou pas tout à fait? On le verra avec nos invités. Et puis, le téléphone sonne en deuxième heure. Je vous le remets dans l'oreille. On parle de l'hôpital ce soir, l'hôpital d'après. Quelles mesures pour qu'il ne ressemble pas à l'hôpital d'avant? Quand les blouses blanches étaient en colère, Emmanuel Macron a désamorcer un peu la crise. Il a promis beaucoup de choses sur les salaires ou sur les investissements. À vos questions, 01 45 24 7000. L'œil sur le ciel.
La météo, avec la Fondation de France, la PHP et l'Institut Pasteur, qui unissent leurs forces pour aider les soignants, les chercheurs et les personnes vulnérables. Tous unis contre le virus sur fondationdefrance.org.
Et bonsoir Jean-Michel Golinski.
Oui Fabienne, bonsoir.
Les averses sont en déclin, Jean-Michel, dans le sud-est.
Ah, c'est vrai qu'elles sont déjà moins nombreuses aujourd'hui et demain elles vont avoir tendance à disparaître totalement. Il ne restera juste qu'un peu d'instabilité en montagne. Le Mistral et la Tramontane vont également s'essouffler. Conséquence, c'est une belle et chaude journée qui s'annonce sur l'ensemble du pays. Une fois les grisailles ou autres brouillards rapidement dissipés, ils seront plus regroupés et fréquents sur les départements situés le long de la Manche.
Et sinon, Jean-Michel, quelques températures pour la route, elles sont en hausse?
Ah ben c'est vrai que déjà cette nuit, elles vont osciller entre 10 et 15 degrés en général. Il est même prévu une vingtaine de degrés au lever du jour sur le Roussillon. Et demain après-midi, les maximales vont gagner surtout dans la partie nord, avec 20 à 23 degrés prévus près de la Manche et souvent 26 à 31 ailleurs. Avec par exemple 31 sur l'Hérault, 29 à Marseille, Cognac et Nantes, 27 degrés à Lille comme à Toulouse, Orléans, Limoges et Brest et 26 degrés sur la Lorraine et le plateau de Langres. Il fera également 29 degrés demain après-midi à Paris.
Jean-Michel Golinski de Météo France. Merci beaucoup Jean-Michel, à tout à l'heure après 19h.